L'exigence d'exemplarité, c'est évidemment une notion qui peut être large, aussi bien que quelque chose qui suscite la réaction vaste programme, l'exemplarité. Vaste programme, si on prend les textes, ce qui est le réflexe naturel d'un juriste, on s'aperçoit qu'une très grande confusion règne. On l'a déjà vu avec l'invocation de l'exemplarité dans les décisions de justice. Dans la charte de déontologie des membres du Conseil de Paris, l'exemplarité se réduit à une obligation d'assiduité aux séances, ce qui me paraît à tous égards un peu court. Si on prend la charte dont s'est doté le Conseil municipal de Strasbourg en 2014, c'est au contraire une notion qui peut être extrêmement large, dans la mesure où il est indiqué que l'ensemble des conseillers s'engage à respecter les valeurs, baptisées principes dans le texte, je cite, de respect, de transparence, d'honneur, d'intégrité, de probité, d'impartialité, de courtoisie et d'exemplarité. Ce qui fait évidemment beaucoup avec, en plus, des interférences assez fortes entre les différentes notions ici invoquées. Du coup, j'ai tendance à considérer que l'exemplarité des dirigeants publics, en tout cas au niveau des conseillers municipaux, c'est une exigence d'un comportement correct, tout simplement. D'un comportement donc contraire, conforme aux exigences de la déontologie, j'y reviendrai dans un instant. Ça m'évoque aussi le mot de Beaumarchais dans le mariage de Figaro, c'est une réplique de Figaro. Aux qualités qu'on exige des domestiques, Votre Excellence connaît-elle beaucoup de maîtres qui seraient dignes d'être valets? Simplement ici, évidemment, il faut inverser entre maître et valet. L'idée, il en a été question déjà à plusieurs reprises, est que l'exercice de responsabilité publique doit s'accompagner d'une particulière rigueur dans la définition des obligations qui pèsent sur les responsables publics en question. Les fonctions dont ils sont investis, en l'espèce par le corps électoral, s'agissant des conseillers municipaux, ce sont des fonctions qui les obligent et qui les obligent à avoir un comportement qui ne sorte pas, je dirais, de certains rails, ceux de la décence, ceux de la moralité, si l'on veut, et avec tout le flou, je reviendrai, que comporte cette notion. Je vais tracer d'abord le cadre dans lequel j'exerce les fonctions qui m'ont été conférées. Je l'ai dit, le 22 septembre 2014, le Conseil municipal de Strasbourg s'est doté d'une charte de déontologie précisant les obligations, il y en a quelques autres, des élus municipaux. Et l'article 7 de la charte institue un déontologue qui, lui, a une mission à la fois plus étroite et tout aussi large. Il doit examiner d'éventuels conflits d'intérêts, au sens de la loi de 2013, et, je cite plus généralement, c'est le cas de le dire, de veiller au respect de la charte de déontologie du Conseil municipal de Strasbourg. Vaste programme, là encore. Je souligne que, à la fin de l'année 2014, sauf erreur de ma part, la ville de Strasbourg a été la première collectivité territoriale à se doter de l'institution d'un déontologue. En effet, à l'époque, le Conseil de Paris avait déjà une commission de déontologie, mais celle-ci était constituée de conseillers de Paris désignés à la proportionnelle des groupes. Autrement dit, il ne s'agissait pas d'une instance extérieure à l'Assemblée élue. Un déontologue, c'est la mission qu'il m'a été proposée par l'adjointe au maire en charge de la démocratie locale, ma collègue Chantal et amie Chantal Cutajar, qui m'a demandé un beau matin, est-ce que tu voudrais être déontologue? léger temps, je l'avoue ici, d'incertitude de ma part. Je ne savais pas exactement en quoi ça consistait, déontologue. C'est un terme dont il faut noter qu'il est tout sauf transparent, pour reprendre un adjectif déjà étudié sous d'autres angles. Il est généralement considéré comme l'équivalent d'un médiateur, d'un ombudsman, ce qu'il n'est pas, évidemment. Pour le reste, quand on commence à évoquer la garantie du respect des obligations contractées par les élus, on bascule dans un tout autre univers, celui du Saint-Office, rebaptisé, comme on le sait, Congrégation pour la doctrine de la foi démocratique en l'espèce évidemment, et je dirais le curé du village. Je ne dis pas ça parce qu'il s'agit d'une collectivité locale, bien sûr. Le rôle du déontologue est assez difficile à définir, effectivement. C'est une instance jusque-là peu connue en France, et ça reste vrai d'ailleurs, je crois. Alors, si on prend l'étymologie, réflexe naturel d'un professeur de droit, d'un professeur en général et d'un professeur de droit en particulier, on apprend que le terme apparaît en 1825 dans la langue française, en traduction de Jeremy Bentham, qui avait forgé ce néologisme à partir du grec todéon, ce qu'il convient de faire, de déin, lié, attaché, et logos, le discours, la doctrine. Bentham écrit « Ethics has received the more expressive name of deontology ». C'est donc le source, le dictionnaire historique de la langue française de Paul Robert. On est donc dans une théorie des devoirs, on est dans la mise en pratique, je dirais, d'une morale, avec toutes les approximations, j'en suis tout à fait conscient, mais je crois que ça fait partie justement, j'allais dire du métier, en tout cas de l'office, et de la zone surtout dans laquelle, j'y reviendrai, on se situe, il y a effectivement une très grande incertitude sur les frontières de cette institution. Ce qui est clair, et le dictionnaire de la langue française évoque évidemment la déontologie médicale comme exemple type, lui ancien, d'emploi de ce terme, c'est que la mise en œuvre de la déontologie exige des soins, je dirais, quasi médicaux. Après que je me fus plaint devant le conseil municipal de Strasbourg en séance publique, d'être assez peu sollicité, et par les élus et par les citoyens, le caricaturiste du journal local, Les Dernières Nouvelles d'Alsace, avait fait un dessin dans lequel, pour se moquer de moi, les élus attendaient devant un cabinet où il y avait marqué « déontologue » et faisaient semblant de me prendre pour un dermatologue. L'équivalence des consonances est donc... là encore, peut-être, à assumer dans une certaine mesure. Vous le savez, Yves Godemet, dans un article récent de la Revue du droit public, a contesté le principe même d'une institution de déontologue. Avec l'argument, la déontologie, ça se vit dans l'intimité des consciences, et on rejoint évidemment ici l'idée de vie privée, en tout cas de fort interne des élus, dans lequel il conviendrait de ne pas s'immiscer. Cela dit, ça me rappelle quand même un peu ce procès-là, et Yves Godemet dit, du coup, il va y avoir un transfert de pouvoir entre les mains des déontologues, c'est un pouvoir qu'il qualifie de pouvoir masqué, c'est l'intitulé de son article. RDP 2021, page 895. Je veux bien, mais je fais quand même remarquer que si on a ressenti le besoin d'une instance extérieure par rapport aux responsables politiques pour indiquer ce que la déontologie commande, c'est qu'il y avait un problème. De même que à la conception d'Ancien Régime, selon laquelle le roi ne répondait qu'à Dieu lui-même du respect des obligations qu'il avait contractées lors de son serment à Reims, à un certain moment, on a fait une révolution, notamment pour exiger qu'il y ait des contrôleurs extérieurs de la manière dont cela se passe. Il faut une instance extérieure, notamment dans le cas qui nous occupe, à l'Assemblée considérée pour énoncer en toute indépendance un certain nombre d'orientations et aussi, le cas échéant, pour pointer, je dirais, les manquements de tel ou tel à ses obligations dont j'ai lu l'essentiel, c'est-à-dire ses obligations solennelles de respecter les valeurs dont l'exemplarité. L'indépendance, c'est à mes yeux évidemment un élément indispensable pour mener l'activité d'un déontologue. Et à cette fin, j'ai demandé et obtenu, avant d'accepter les fonctions, que le choix du maire soit ratifié, d'une part par la majorité des présidents des groupes politiques du conseil municipal, et dans un second temps, par 3/5 au moins des conseillers municipaux, de manière à être effectivement, j'allais dire au-dessus des partis, mais les connotations sont tellement fâcheuses que je retire immédiatement cette expression, mais en tout cas de ne pas apparaître comme le serviteur d'une majorité quelconque. Les compétences qui ont été attribuées aux déontologues à Strasbourg sont de 3 ordres. D'abord, et c'est en pratique l'essentiel, une activité de conseil aux élus. Les élus peuvent venir, et là c'est confidentiel, me trouver en disant j'éprouve un embarras face à telle situation et j'essaye de clarifier ça avec eux, de donner des recommandations, etc. Deuxièmement, mais ça n'a pas très bien marché pour l'instant en tout cas, une possibilité de statuer sur saisine d'un citoyen quelconque sur la manière dont dans telle affaire qui est soumise donc au déontologue, tel conseiller s'est conformé ou non à ses obligations, c'est ce que j'appelle la compétence sur plainte. Enfin, la rédaction d'un rapport annuel ainsi que de recommandations générales à ma discrétion et également s'y ajoute l'établissement d'un bilan à la fin de la mandature, puisque la mandature du déontologue coïncide avec la durée d'élection du conseil municipal, soit 6 ans. Lors de ma prise de fonction, une fois menés les premiers entretiens avec les médias intéressés du coup par la nouveauté, ça n'a pas duré longtemps, parce que justement Strasbourg était la première commune de France A, etc., j'ai été en quelque sorte plongé dans l'univers politique avec des réactions diverses et variées, critiques systématiques de l'opposition, même modérée, de ce que la municipalité venait d'instaurer, une majorité obligée de suivre l'initiative du maire avec un degré d'enthousiasme très variable, allant de la technique de l'autruche, tant qu'il ne m'interpelle pas, tout va bien, à effectivement une volonté, que j'ai la faiblesse de croire sincère, de certains, très peu nombreux, d'exploiter effectivement la possibilité d'entretenir un dialogue sur ce que devait être une bonne conduite face à telle ou telle situation. Et puis, évidemment, des oppositions plus ou moins bien motivées, en général pas très bien, je dois dire, allant de... Alors, ça c'est récent, mes fonctions ont été enrichies de celles de déontologue de l'Eurométropole de Strasbourg, c'est-à-dire la communauté urbaine, l'ex-communauté urbaine de Strasbourg, qui n'avait pas pour l'instant de déontologue avant la présente mandature, un élu d'une commune rurale, il s'affirmait comme tel, m'a dit en face qu'il ne voyait pas l'intérêt d'un déontologue. Bien, dont acte. Et puis, il y a des réactions vraiment épidermiques, qui touche notamment, on retrouve à nouveau l'intervention précédente, l'idée d'atteinte intolérable à la vie privée. On m'a même accusé de fouiller les sacs à la recherche de petites culottes, je cite, sale bien sûr. Donc, des réactions pas très informées, évidemment, d'abord, et surtout traduisant cette hostilité, je dirais, viscérale de certains élus, plutôt majoritaire, me semble-t-il, quand même, si j'essaie d'évaluer la situation avec un début d'objectivité, d'hostilité à tout contrôle extérieur. Déjà, le juge s'est mal vécu, alors a fortiori, quelqu'un qui vient dans une nouvelle fonction, ça a été assez peu goûté. Deuxième enseignement très vite de l'exercice de mes fonctions, c'est la complexité des choses. Je suis parti, comme tout le monde, sur une vision manichéenne. Il y a les gentils élus qui font leur travail honnêtement et il y a les méchants élus qui abusent de leurs fonctions pour favoriser tel ou tel copain, concubin, etc., etc. Autrement dit, une vision manichéenne, je crois que c'est le mot qui convient. Or, les choses sont, heureusement d'ailleurs, beaucoup plus compliquées que cela. Première demande qui m'est soumise par un conseiller municipal, confidentiellement, elle s'avère être extrêmement compliquée. Un professionnel a fondé avec des amis une société active depuis des années dans un domaine déterminé, je ne préciserai pas lequel. Il vient d'être élu et il veut savoir quelle attitude doit adopter, d'une part, la structure, ou plutôt doivent adopter les structures, parce que c'était un montage assez complexe de société, face à la possibilité de solliciter des commandes de la ville, et aussi lui-même, qu'est-ce qu'il doit faire pour... Il venait de... Je le précise d'ailleurs, de démissionner de ses fonctions au sein de cette structure, ainsi que de quelques autres, mais pas de la totalité. Donc ça devenait un peu compliqué. Que devait-il faire? Que devaient faire ses anciens associés? La réponse était tout sauf simple. Est-ce que on peut condamner une société à s'abstenir de candidater à un marché passé par la ville de Strasbourg parce qu'elle se trouve avoir en l'espèce le malheur de voir un de ses associés élu au conseil municipal? Si on dit il ne faut pas que cette structure demande à entrer en relation contractuelle nouvelle avec la ville, combien de temps? La durée du mandat, 6 ans, c'est beaucoup quand même. Et après, si l'élu, ce qui s'est passé, est réélu, est-ce que l'interdiction devrait continuer de valoir? Quelle doit être son attitude? La réponse a été « tenez-vous le plus à l'écart possible du processus décisionnel », ce qui veut dire en tout cas, bien évidemment, vous vous déportez lors des votes, vous ne participez à aucun titre, ni vous-même, ni par délégation au scrutin, sur quelque chose qui, une délibération qui reviendrait à conférer un avantage quelconque à la structure ou aux structures dont vous étiez membre, et après, et le reste. Et si, par exemple, il intervient en tant qu'adjoint, ça n'a pas été le cas, mais s'il intervenait en tant qu'adjoint dans le domaine même où la société dont il s'est retiré était active, comment faire pour éviter le soupçon? Comment faire pour avoir effectivement un comportement exemplaire? Nous avons essayé de bricoler, au sens non péjoratif du terme, des solutions qui lui permettaient de se mettre à distance du processus décisionnel, mais il va de soi que ça n'est pas très facile. Il y a, dans beaucoup de cas qui m'ont été soumis, une difficulté énorme à définir des choses claires. Ça rejoint d'ailleurs des constatations que fait Agnès Robleau-Troisier dans son rapport pour 2018 en tant que déontologue de l'Assemblée nationale. Elle définit le conflit d'intérêts d'une manière qui me paraît très fine et très juste, de la manière suivante. Il s'agit d'un lien d'intérêt, écrit-elle, d'une intensité telle qu'il ne peut être raisonnablement pensé que l'élu a pu agir en s'en abstrayant. Ce qui paraît une définition extrêmement fine et juste. Le problème, évidemment, c'est que pédagogiquement, il est un peu difficile d'exposer aux citoyens le résultat de l'application de ce critère. On a beau essayer de jouer le jeu de l'exemplarité aussi loin que possible, je crois, il va de soi que ici, ce n'est pas facile. Et surtout, ce n'est pas vendable, je dirais, en termes médiatiques, si les médias s'en mêlent. Voltaire reprochait au théâtre de Marivaux de peser des œufs de mouche sur des balances en toile d'araignée. Il me semble que c'est une bonne définition des difficultés que le déontologue a parfois affronté. Je précise que j'aime beaucoup Marivaux, à l'inverse de Voltaire. Il y a une part de subjectivité, bien entendu, dans cette pesée des œufs de mouche. Mais il y a une consolation aussi, c'est que se dégagent, je reviendrai tout de suite, des lignes directrices grâce notamment aux interactions qui se produisent entre les différentes instances en charge de la déontologie, notamment sous les auspices de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui sous la présidence de Jean-Louis Nadal a effectivement instauré une chose qui me paraît tout à fait utile à tous égards, qui est des rencontres annuelles entre les instances en charge de la déontologie. Je dois dire qu'elles permettent de se rassurer, en ce sens qu'elles révèlent que les pratiques finalement convergent et que des principes se dégagent qui sont les mêmes, je dirais, sur l'ensemble du territoire national et pour les différents acteurs de la déontologie. J'en viens précisément à une série de réflexions qui seront rapides, faute de temps, qui portent sur, je dirais, des aspects un peu plus théoriques de l'office d'un déontologue et, par ricochet, de l'idée de transparence, d'exemplarité, pardon. C'est la contagion de l'excellent exposé précédent. Première constatation, le droit, qui est le socle et le noyau dur de la déontologie, apparaît comme une arme redoutable face à des élus, et la remarque est générale d'ailleurs, qui sont généralement assez peu outillés en matière juridique. Le droit fait peur, particulièrement lorsque on peut agiter la crainte de l'enfer, pour en revenir à la comparaison théologique, si je puis dire, dont je suis parti, à savoir la crainte, évidemment, de la sanction pénale. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. La crainte de la sanction pénale est un argument qui permet aux déontologues, je dirais au moins, d'avoir l'oreille des conseillers qui l'écoutent. Le problème, évidemment, c'est que nous le savons tous, sans quoi nous ne serions ni juristes ni professeurs de droit, c'est que les enseignements du droit ne sont que rarement univoques. Autrement dit, projeter une solution future que viendraient à adopter les juges dans un cas déterminé, vous le savez, c'est un exercice risqué. Il faut donc faire la part, et je crois que c'est la déontologie des déontologues que de le faire avec rigueur, entre ce qui est certain. Par exemple, tel arrêt de la Cour de cassation définit le délit de prise illégale d'intérêt de telle manière, et notamment a été confirmée la condamnation d'un maire, par ailleurs président d'association, qui avait attribué à la dite association une subvention tout en prenant part au vote. La Cour de cassation a dit il y a prise illégale d'intérêt, ce qui est un peu contestable, alors même que l'arrêt relève que le maire n'avait tiré aucun enrichissement personnel ni aucun profit d'aucune sorte du vote en question. Ce qui compte pour la Cour de cassation dans la définition du délit de prise illégale d'intérêt, c'est le manquement à l'impartialité et non pas le manquement à l'honnêteté. Cette lecture de l'arrêt de la Cour de cassation, il y a très peu d'arrêts sur la question, donc on est obligé évidemment d'extrapoler, nous fait pénétrer, je dirais, à un second niveau qui est celui de la projection probable de la solution dans des cas similaires. J'ai ainsi risqué la proposition que que ce que la Cour de cassation avait jugé dans le cas d'un maire président ou d'un élu, d'une manière générale, président d'association, devait être transposé au cas d'un maire président d'une société d'économie mixte, enfin d'un élu président d'une société d'économie mixte ou administrateur d'une société d'économie mixte locale. Là, j'étais à peu près certain de la solution, d'autant plus que la Haute Autorité, dans son deuxième rapport, sauf erreur, avait exactement abouti à la même conclusion. Là, on trouve déjà cette idée que tout cela rassure, on n'est pas le seul à risquer une interprétation déterminée. Et puis, évidemment, on peut aussi aller plus loin dans les conséquences que j'ai essayé de faire, dans les conséquences de cet arrêt de la Cour de cassation sur la définition du délit de prise illégale d'intérêt, en disant il faut non seulement s'abstenir de prendre part au vote, dans un cas de figure de ce type, il faut également ne pas assister à la séance du conseil municipal sur la question, donc ne pas participer à la délibération d'aucune manière, et aussi, toujours plus loin, se tenir à l'écart de l'ensemble du processus décisionnel, c'est-à-dire éviter d'aller voir l'administrateur en charge de la question en lui disant « et si vous donniez telle subvention ou accordiez tel avantage ?» à telle association ou société. Ce qui, là encore, de fil en aiguille, conduit à une exemplarité tracée par voie de déduction, mais aussi, très souvent, troisième état de la matière, d'a fortiori, je dirais, et de « il faut arriver aussi à cette conclusion », une définition de l'exemplarité qui est finalement très contraignante pour les élus. Deuxième série d'observations, la déontologie, c'est le droit et aussi un au-delà du droit. Le Conseil d'État permet d'illustrer cette hypothèse, un arrêt Société Zambon France du 22 juillet 2015, à propos d'un avis rendu par la Haute Autorité de Santé. Le Conseil d'État écrit ceci, même en l'absence de texte. Lorsqu'un membre d'une commission administrative à caractère consultatif est en situation de devoir s'abstenir de siéger pour l'examen d'une question, il est de bonne pratique, je cite l'arrêt, il est de bonne pratique qu'il quitte la salle où se tienne la séance pendant la durée de cet examen. Que toutefois, la circonstance que l'intéressé soit resté dans la salle n'entraîne l'irrégularité de l'avis rendu par la commission que si, en raison notamment de son rôle dans celle-ci, de l'autorité hiérarchique, scientifique ou morale qu'est la sienne, ou de la nature de ses liens d'intérêt, sa simple présence durant la délibération a pu influencer les positions prises par d'autres membres de l'instance. On voit ici très nettement se combiner le droit et l'au-delà du droit qui est la définition d'une exemplarité par des bonnes pratiques. Il est de bonnes pratiques, est-ce un juge, même administratif, de dire cela? C'est d'autant plus intéressant à relever que quelques années plus tard, dans un autre arrêt, le Conseil d'État, arrêt du 18 décembre 2020, port autonome de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil d'État intègre dans le droit ce qui n'était que bonne pratique dans son arrêt de 2015. Ressource donc de la jurisprudence, jurisprudence qu'évidemment le déontologue interprète, avec, je l'ai dit, le devoir simplement d'indiquer le degré où se trouvent les préconisations qu'il est amené à émettre. À l'arrivée, une densification normative croissante qui pèse sur les élus. Ce qu'on peut évoquer ici, c'est l'image d'une dune qui avance régulièrement, inexorablement, avec comme résultat une accumulation de solutions différentes, éventuellement rendues par des instances différentes. Et on peut ici utiliser, ne serait-ce que comme menace, des innovations introduites par d'autres instances en charge de la déontologie. Comme les élus répugnent à s'acquitter de leurs obligations déclaratives, j'ai déclaré, ça n'a servi strictement à rien d'ailleurs, en conseil municipal que le conseil de déontologie de la région Île-de-France avait décidé de publier les noms des élus qui s'acquittent de leurs obligations de déclaration, ce qui signifie évidemment, à contrario, que si on n'est pas sur la liste, on n'est pas très exemplaire. Enfin, question, mais mon temps est expiré, donc je vais terminer en invoquant simplement les problèmes. Il y a évidemment un risque d'instrumentalisation dans les fonctions de déontologue. D'abord dans le traitement d'une affaire, et c'est particulièrement le cas lorsque on est saisi par un tiers. Il y a des saisines par un conseiller municipal à l'encontre d'un autre. Là, au moins, les choses sont claires. On est dans un jeu politique qui consiste à utiliser l'espérée condamnation par le déontologue à des fins politiques. Bon, on voit au moins l'étendue du problème. Ça peut être également, autre variante, une saisine émanant d'un haut fonctionnaire de la ville, contre, en l'espèce, le maire. Il s'agissait d'une affaire, j'ai 2-3 minutes pour l'exposer. Il s'agissait d'une affaire dans laquelle on inaugurait le réaménagement des quais au centre de Strasbourg. Et la ville avait voulu marquer l'événement, notamment parce qu'on était très près des prochaines élections municipales où se présentait l'ex-premier adjoint, l'encore premier adjoint, au moment des faits. Et donc, le maire décide, entre autres, d'organiser des compétitions de natation dans l'île. Très bien, a priori, et c'est très innocent. Le problème était que, premièrement, il y avait un arrêté municipal qui est toujours en vigueur, interdisant la baignade à Strasbourg. Donc, il y avait un petit problème quand même juridique qui n'a certes pas été soulevé devant le juge administratif, mais qui existait. Et puis, il y avait surtout l'essentiel, c'est que les services de la ville n'avait cessé d'attirer l'attention du maire et des adjoints en charge de la question sur le fait que la météo prévoyait des pluies importantes la veille de l'épreuve et que cela entraînait un risque de pollution des eaux extrêmement important. Et donc les services avaient constamment demandé au maire de ne pas organiser cette épreuve. Le maire avait coupé la poire en deux, comme il arrive parfois, il avait dit telle épreuve, oui, l'autre aura lieu. Elle a lieu, et suite à cela, un haut responsable de l'administration municipale me saisit en disant le maire a manqué à l'une des obligations que lui fait le code de déontologie, à savoir l'obligation pour les élus, de respecter en toute leur décision l'intérêt général. Et donc, évidemment, ici, on est aux confins de l'opportunité et de la déontologie, si je puis dire, pour parodier une autre formule célèbre. Et j'ai finalement conclu que le maire avait manqué à ses obligations dans la mesure où, effectivement, l'intérêt public me paraissait ici très clairement appeler la décision que souhaitait en l'espèce l'administration municipale, à savoir de ne pas exposer les participants à l'épreuve à un risque important de pollution. Enfin, dernier élément que je ne fais qu'évoquer faute de temps, il est clair que l'existence même d'un déontologue produit des effets illocutoires, dirait mon maître Amselec, l'institution elle-même, lorsqu'elle ne correspond pas à une obligation légale, produit évidemment un effet performatif. En créant un déontologue, la ville s'affirme précisément soucieuse de déontologie et donc d'exemplarité dans l'action publique. Est-ce que l'action du déontologue s'épuise dans son institution? Tel est le défi auquel j'ai été confronté et auquel je reste confronté. Il est clair que je ne saurais me contenter de mon existence institutionnelle, mais c'est le sort de la plupart des institutions publiques indépendantes. Elles doivent exister. Je dirais que le résultat global tout de même de l'existence d'un déontologue, le bilan qu'on peut en faire, serait que son existence même, certes, participe du performatif, mais produit au moins un effet tangible qui est celui de faire percevoir aux élus au moins l'existence d'un problème face à certaines pratiques. C'est peu de choses, mais c'est déjà quelque chose. Je vous remercie.